Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Bonjour, je suis actuellement en rendez-vous. Bonjour, le correspondant que vous recherchez est actuellement indisponible. Vous pouvez laisser un message ou taper dièse pour le modifier. Les annonces de ce type se multiplient à partir de 2006 du fait du déferlement des smartphones. Compact, look stylé, clavier sensitif. Les relations entre les individus évoluent. Les nouvelles que nous vous proposons illustrent quelques échos de ce monde. 2006 est aussi l'année où une artiste s'impose. Amy Winehouse. Cette émission rend hommage à sa fougue et son talent. Trop vite disparu.
Coquin de 06. Sur ce versant isolé de la montagne, le téléphone portable avait fait une entrée fracassante, suscitant chez les plus jeunes les rêves les plus fous, l'espérance d'une autonomie tant désirée. Ils n'auraient plus besoin de parler à voix basse pour que les parents n'entendent pas, ne seraient plus coincés dans l'entrée ou dans un coin de la salle à manger pour passer des appels, n'étoufferaient plus les fous rires, ni les « je t'aime ». La liberté, loin des oreilles bien intentionnées des parents. Pour les adultes, le portable constituait un atout sécuritaire. Savoir où étaient les enfants, les appeler n'importe où, n'importe quand. Et surtout, ne plus passer pour des péquenauds aux yeux des touristes. L'anniversaire de Stéphanie approchait et Hélène se tourna vers Vincent. Et si on lui offrait un portable pour ses 20 ans? D'autant que dans 8 jours, elle part en Angleterre pour son stage. Et pourquoi pas un ordinateur pendant que tu y es? Déjà que ses études nous coûtent la peau des fesses, alors hors de question que je fasse encore des heures supplémentaires pour que mademoiselle passe des heures à bavasser. Mais Vincent, elle va se sentir stigmatisée. Toutes ses amies en ont un. Stigmatisée? Rien que ça! Arrête de lire parents et leurs conseils psychologiques de comptoir. Quand elle sera en Angleterre, elle aura qu'à nous appeler d'une cabine pour nous dire qu'elle est bien arrivée. Et pour la suite, elle fera comme nous à son âge. Elle écrira. Ne te fâche pas. Je lui prêterai le nôtre. Et j'avais pensé à une petite enveloppe avec 100 € dedans. T'as pas été si généreuse avec les garçons. Au fait, tu les as invités? Bien sûr. 20 ans, ça se fête en grand. Oui, bien sûr, c'est encore moi qui vais payer. Le repas d'anniversaire se déroula dans la joie, boudeuse pour Vincent, et Stéphanie fut gâtée par ses frères et belles-sœurs. Puis le départ pour Londres s'annonça. Stéphanie jubilait de posséder le portable de ses parents. Hélène et Vincent lui recommandèrent pour la énième fois de faire très attention au forfait, qui était de 2 heures et surtaxé depuis l'Angleterre. Promis juré, elle appliquerait à la lettre leurs recommandations. 3 semaines après son départ, la facture arriva. Stéphanie avait littéralement explosé le forfait qui, de 26 € mensuels, était passé à 350. Vincent était fou de rage. Sur le relevé, il détailla tous les appels émis depuis Londres, 3 pour Hélène et lui, et des dizaines pour les copains et copines. Il appela l'opérateur, qui ne put que constater les faits et rappeler les conditions générales et particulières du contrat. Vincent se tourna alors vers 50 millions de consommateurs, qui, hélas, confirma les propos de l'opérateur. Il pouvait toutefois demander un étalement du paiement, mais ce n'était pas gagné. Il tourna alors sa colère vers Hélène. « Je vais l'appeler, lui dit-elle. Ah oui, et combien ça va me coûter ? Mais tu as raison, et c'est moi qui appelle. Allô ? Stéphanie ? No ? Who are you ? I am the père of Stéphanie. The what? The papa, the daddy. Where is Stephanie? I don't know, she's visiting London. Can you say to Stephanie to stop immediately telephoning because it's very, very expensive? Oh my God, I'm so desolated for you. You can, and I am very big en colère. Thank you. Vincent, tu ne m'avais jamais dit que tu parlais anglais ?
Bon, disons que je me débrouille.
Sur ce, Vincent se rendit au bourg pour se rembourser sur le compte de sa fille dont il avait procuration. Alors qu'Hélène se morfondait, Vincent tournait comme un lion en cage et tomba la deuxième facture. 150 euros cette fois-ci. Ce fut le bouquet. Vincent enfila sa doudoune et sortit prendre l'air. Il pestait, fustigeant sa femme d'avoir eu cette idée saugrenue de prêter le téléphone, leur téléphone, à cette insouciante Stéphanie. Après quelques heures de marche, il rentra. À ses traits, Hélène vit que la colère était toujours là. Il redevint le taiseux, le ténébreux, l'ours mal léché qu'elle n'aimait pas. Il était bien loin le temps où il apprenait à la petite le chasse-neige sans bâton, son émerveillement devant ses progrès. Quelques jours plus tard, ils allèrent chercher Stéphanie à Chambéry. Les retrouvailles sur le quai de la gare furent émues du côté d'Hélène, glaciales côté Vincent. Une fois à la maison, il laissa éclater sa colère trop longtemps contenue. Il brandit les factures sous le nez de Stéphanie, saisit le téléphone et le propulsa violemment contre le mur en pierre. Effrayés, mère et fille se serrèrent l'une contre l'autre. Avant de rendre l'âme, le téléphone se redressa dans une ultime contorsion. Un grésillement se fit entendre et une voix nasillarde éructa « God save the Queen !» Hélène, Stéphanie et Vincent éclatèrent d'un rire irrépressible et salvateur à la fois.
Le 06 de tous les dangers. En coinçant les rideaux de sa fenêtre avec une pince à linge, Lucio pouvait observer le nouveau voisin mieux à son aise. La première phrase de ce livre, Dans les bois éternels, le nouveau roman de Fred Vargas, ne me plaît pas du tout. Mais Sophie, mon épouse, a adoré cet ouvrage et me l'a chaleureusement conseillé. Je pose ce bouquin sur la table de nuit en bâillant. Je n'ai jamais aimé les romans policiers, le sang, les armes à feu, les disparitions, les énigmes à résoudre. Je suis un grand romantique qui rêve de déclarations d'amour sous les étoiles. Sophie est tout le contraire de moi. Elle ne lit que des séries noires où les meurtriers pataugent dans le sang des victimes. En ce moment, elle téléphone à une amie. Ce foutu Nokia 2006 s'invite maintenant dans le lit conjugal. Il manquait plus que ça. Cette invention est vraiment diabolique. Charles, Tu n'aimes pas ce livre, Dans les bois éternels ? Me demande-t-elle en riant. Rien que le titre me donne des frissons. Son rire cristallin envahit la chambre à coucher. Est-ce moi qui l'ai fait rire ou la personne avec laquelle elle converse ? Elle se lève, le portable à la main, et va dans la salle de bain. Je l'entends parler, parler encore. Il faut dire que je ne parle pas beaucoup. Je suis du genre introverti. Je me lève discrètement pour surveiller un peu la conversation et colle mon oreille à la porte de la salle de bain. Guy, tu me manques. Je t'embrasse sur ta bouche adorée. J'en reste abasourdi. Voilà donc à quoi lui sert ce téléphone qu'elle cache même sous l'oreiller pour dormir avec. Ainsi, mon remplaçant s'appelle Guy. Il faut que je me débrouille pour avoir son 06 pour lui dire ma façon de penser. Sophie revient rayonnante de la chambre à coucher. Sa petite nuisette met vraiment son corps en valeur, mais je n'ai pas envie de lui parler d'amour. Elle se couche et met son Nokia sous l'oreiller, puis elle s'endort aussitôt. Je subtilise cet engin de malheur et arrive enfin au numéro de téléphone de l'amant de ma femme. Je le note précieusement sur un morceau de papier et m'enferme dans les toilettes avec mon propre portable pour régler mes comptes avec ce briseur de ménage. Je fais le numéro. « Bonjour, je voudrais parler à Guy Dubois. » Une voix douce me répond. « Ce n'est pas Guy Dubois, c'est Valérie Violette. À qui ai-je l'honneur ?» De fil en aiguille, je me rends compte que je me suis trompé de numéro. « Excusez-moi, madame. » « Ne vous excusez pas, je me sens bien seul. » Je viens de me rendre compte ce soir que mon époux Jean-Claude me trompe avec une dénommée Corinne. Rendez-vous compte qu'il dort avec son téléphone portable. J'ai fouillé à l'intérieur de cet engin de malheur et j'ai capturé le 06 de cette dénommée Corinne Lecoeur. Ne soyez pas triste, madame. Donnez-moi le 06 de cette Corinne et je vais lui dire ma façon de penser à cette gourgandine. La trahison a envahi le monde depuis l'invention de ce maudit téléphone portable. Elle renifle. 06 17 45 90 20. Mon mari m'inquiète un peu. Il ne lit que des romans policiers du matin au soir. Je n'aime pas cela. Je suis une romantique. Moi aussi, madame. Mais les romantiques sont en voie de disparition. Je vous donne le numéro de l'amant de ma femme. Guy Dubois, 06 54 45 10 12. Téléphonez à cet homme et faites croire à votre mari que le dénommé Guy est votre amant. Votre époux reviendra vers vous. Un peu de jalousie peut mettre du piment dans un couple. De mon côté, je vais téléphoner à Corinne Lecoeur. Ma femme sera jalouse. Elle va peut-être revenir vers moi. Affaire conclue. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allô, Madame Lecoeur ? Je ne communique pas avec les numéros inconnus, me répond cette femme sèchement. Votre numéro n'est pas dans ma base. Elle raccroche. Je téléphone de nouveau à Valérie, mais elle ne me répond pas. Deux jours plus tard, en ouvrant mon journal, je découvre, effaré, le meurtre d'une dénommée Valérie Violette. Son corps fut retrouvé dans un bois non loin de chez elle. Suite à la découverte de mon 6 dans le portable de la victime, la police est venue m'interroger. Mais j'avais un solide alibi, j'étais avec Sophie le soir du meurtre. Guy ne la fait plus rire. Il se trouve actuellement en prison. Il est suspecté du meurtre de Madame Violette. Ce qui ne me déplaît pas, même si je sais pertinemment qu'il est innocent. Quant au mari de Madame Violette, il jure qu'il n'y est pour rien. D'ailleurs, il a perdu son portable. Voilà, ce sont les faits exacts qui se sont passés dans la nuit du 6 au 7 janvier 2006. Mais je préfère ne pas trop en parler.
Citation Gicorno, les mots et par les mots. Lorsque mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. L'éphéméride des mots et des mots.
Dangereux voisin, en coinçant le rideau de ma fenêtre avec une pince à linge, je peux observer mieux à mon aise le nouveau voisin, M. Archambault et son fils. Le givre de ce glacial hiver 2006 cache ma silhouette. Je m'appelle Marion et je m'ennuie ferme dans ce morne pavillon aux pièces fonctionnelles, certes, mais comment dire, sans chaleur, avec une mère toujours pressée et un père inactif, mais gentil au demeurant. Lui au moins ne me casse pas les oreilles avec les « ramasse tes vêtements, tu vis dans une porcherie, éteins ton portable, baisse ta musique, fais tes devoirs ». Alors les cris emplissent la maison et ma mère, une femme sans manière, confisque mon portable chaque soir. Je ne peux concevoir une telle ingérence dans ma vie. Sous prétexte que tu m'as mise au monde, j'ai besoin de communiquer avec mes copines, mais tu ne comprends pas. Toi, tu n'as pas d'amis. Moi, superficielle, ne crois pas cela. Je soupèse ma vie et mes décisions à longueur de jour, indécise jusqu'au choix de mes vêtements au réveil. Ce jean, mais la sortir avec quoi? Qui va me remarquer aujourd'hui? Serais-je provocante ou effacée? À croire que ma mère n'a jamais été une ado, toujours stricte, avec son petit chignon et les coins tombant de sa bouche, comme si elle était revenue de tout, genre désabusée. Elle a dû être jolie et rieuse, je le vois sur de vieilles photos de mariage, mais on dirait que la vie en commun est un tue-l'amour. Ah, mon père, cet homme doux et faible dont je suis la petite reine, heureusement qu'il est là, avec ses yeux de labrador, enfin, entre deux bières au bistrot avec ses potes. Je décide un jour d'acheter un petit téléphone jetable que je cache dans ma chaussette. Ainsi, je peux continuer à téléphoner dans mon lit, au chaud, sous la couette. Le fils du voisin s'appelle Arthur et il fréquente le même bahut que moi. C'est lui que j'observe depuis son emménagement. Je lui ai donné mon 06, celui de mon téléphone prépayé. C'est cool. Il a des yeux verts comme les miens, sauf que je suis rouquine et lui châtain. Mais on se ressemble. Et on pourrait s'assembler, qui sait? Son père, lui, me fait peur avec ses yeux morts et sa dégaine musclée et un je ne sais quoi de malsain dans le sourire. Il tond sa pelouse méticuleusement 3 fois par semaine et dès qu'il me voit à ma fenêtre, il fait rouler ses pectoraux sous son t-shirt moulant. Pensez, un vieux de 40 ans. Et puis il me fixe jusqu'au moment où je me cache derrière les rideaux de ma chambre. Au fil du temps, Arthur devient une ombre. Il rase les murs et fuit mon regard, comme s'il cachait un lourd secret. D'ailleurs, il vit seul avec son père. Un va-et-vient perpétuel de femmes aguichantes, perchées sur des talons aiguilles, mais comment font-elles pour garder leur équilibre, entrent et sortent de chez eux, la nuit tombée. Jamais la même. Cela m'intrigue fortement, et j'avoue que, planté derrière mon rideau, mes voisins m'obsèdent. Je ne peux en parler à ma mère qui fait des nuits de permanence à l'hôpital, service des personnes âgées, presque grabataire. Elle rentre au petit matin, exténuée. Une nuit, je n'y tiens plus. Je m'aventure chez Arthur. J'envoie des cailloux sur sa fenêtre et il ne répond pas. Alors, je contourne la maison pour entrer par une porte non verrouillée, si c'est ma chance. Je vais lui faire une surprise. Bizarre, j'aperçois son père, le dos voûté, affairé près d'un grand sac poubelle à la forme humaine. Il creuse un trou avec une bêche. Je ne peux retenir un petit cri en voyant la terre fraîchement retournée. Un trou? Mais pourquoi? Je n'ai pas le temps de courir. Il me rattrape, m'enferme dans le cabanon au fond du jardin et me lance. « Je vais réfléchir à ce que je vais faire de toi, petite fouineuse. J'ai peur et je voudrais crier. » Maligne, j'ai toujours le portable prépayé dans ma chaussette. J'écris un SMS d'appel au secours à mon père, pourvu que, dans un moment de lucidité, il regarde son téléphone. Je tourne en rond dans la cabane, secoue la porte bien cadenassée, lorsqu'enfin les gyrophares de la police éclairent le jardin. Mon père arrive essoufflé, ouvre le verrou et me prend dans ses bras, les yeux noyés de larmes. Mon père, ce héros. Pas si raté que ça, finalement, je me dilate de bonheur. Après interrogatoire du voisin, il s'avère que le père d'Arthur enterrait tout simplement son chien en toute discrétion. La vérité, le chien, hélas, s'était passé sous une voiture et le papa attentionné voulait le cacher à son fils. Je me sens stupide, une vraie coquille d'œuf. Cet homme que je soupçonnais des pires méfaits a révélé son cœur, bien qu'il m'ait enfermé pour me donner une leçon de non-ingérence. Je crois que je lis trop de romans policiers, assurément. Épilogue. Article de Ouest-France, 9 juin 2026. Le pavillon de l'horreur. Les restes macabres d'une jeune fille disparue depuis 3 mois, Isabelle Monteclerc, ont été retrouvés dans le jardin d'un retraité. Elle était enterrée sous le cadavre d'un chien.
Communication. 9h30. En coinçant les rideaux avec une pince à linge, Colette peut regarder sans obstacle la façade de Madeleine. Celle-ci a pris l'habitude de déposer Sémaphore, un petit canard en céramique, sur l'appui de sa fenêtre pour indiquer qu'elle a reçu un message téléphonique pour sa voisine. Un signal précieux pour celle qui n'a jamais fait installer de ligne chez elle. Et justement, ce matin-là, le canard est de sortie dès Potron Minet. Quand elle estime l'heure décente pour sonner à sa porte, Colette, intriguée, se présente chez Madeleine, laquelle lui annonce « Julie a appelé hier soir, mais tu avais déjà fermé tes volets. Elle voudrait te parler. Je lui ai dit que tu venais prendre le thé cet après-midi, alors elle a dit qu'elle appellera vers 17h. Surtout qu'elle ne s'inquiète pas, c'est une bonne nouvelle, qu'elle m'a dit. » Il est rare que sa petite fille téléphone à Colette. Par contre, elle lui écrit souvent pour lui raconter sa vie. Et toutes deux échangent de longues lettres, comme Madame de Sévigné. 11h. Delphine consulte le répondeur qui clignote. Elle vient de s'absenter pour aller au supermarché et a peur d'avoir raté un appel professionnel. Traductrice à domicile, elle est souvent contactée ainsi par de nouveaux clients. Elle soupire en constatant que l'enregistrement délivre la voix de sa fille. « Coucou maman, c'est Julie. Bon, comme prévu, je viens déjeuner dimanche. C'est juste pour te dire que je ne serai pas seule. Je veux vous présenter quelqu'un. Alors, prévois une assiette de plus. Je te rappelle. Bisous !» Une telle information n'informe en rien. Elle ouvre par contre à de multiples interrogations. Quelqu'un, c'est vague? C'est un garçon? Je vais vous le présenter, c'est donc sérieux? Bon, il va falloir soigner le repas, sans savoir qui c'est. Avec Colette, qui déjeune ici tous les dimanches midi, et Quentin, qui revient exceptionnellement de Rennes, ils seront 6. La tête pleine de questions en vrac, Delphine appuie sur le numéro noté en mémoire 1. Après quelques brèves sonneries, un message préenregistré déroule son baratin. Bonjour, Thierry Blanc est actuellement en rendez-vous ou absent. Si vous souhaitez être rappelé, laissez vos noms et numéros ainsi que le motif de votre... Delphine raccroche sans attendre. Elle n'a pas l'intention de confier ses états d'âme au répondeur, surtout au répondeur professionnel de son mari. Manquerait plus que ce soit sa secrétaire qui écoute, cette pimbèche aux fossiles et mini-jupes moulantes. Elle la soupçonne d'espionner leur vie privée. 11h30. Installée à la terrasse du café, un jus de fruits à portée de main, Julie consulte ses appels, puis pianote laborieusement un SMS. Elle couve des yeux le portable tout neuf, noir et argenté. Son Nokia 3310 a changé sa vie. La sonnerie du téléphone interrompt sa rêverie. Un numéro s'affiche, inconnu de sa base de contact. « Juju, c'est moi !»« Qui, toi ?»« Bah, ton frangin !»« Ah, salut, contente de t'entendre, Quentin !»« J'ai pas souvent !»«
Ouais, la faute au matériel. Les cabines en état de marche ne courent pas les rues. Depuis la dernière manif étudiante, il y en a bien la moitié hors d'usage. Je crois que t'étais toi aussi parmi les manifestants. Oui, mais je suis pas un casseur. Bon, ceci dit, tu m'appelles pourquoi ? Ah zut, ma carte est presque vide. Ça va couper. Tu peux dire aux parents que... Bip, bip, bip. La conversation s'interrompt brutalement. Julie rigole en imaginant Quentin en train de pester dans la cabine téléphonique. Il est urgent de suggérer à leur père de leur offrir un portable comme cadeau d'anniversaire. Quel étudiant pourrait s'en passer désormais en 2006 ? Le téléphone frémit de nouveau. Sans le laisser s'exprimer davantage, ayant aperçu le 06 affiché, Julie décroche, un sourire béat aux lèvres. « Allô ? Salut. T'es où ? Sur une aire autoroute du côté du Mans. Et toi ? À la terrasse chez Margot. Tu fais quoi ? Je pense à toi. Et toi ? Je pense à nous. » Note de l'auteur. Une nouvelle de 5000 caractères ne suffira pas à raconter les échanges téléphoniques fort intéressants de ce jeune couple. Nous supposons d'ailleurs que les forfaits téléphoniques illimités furent inventés ultérieurement par un amoureux transi et bavard. Nous livrons ici la version abrégée, expurgée, des échanges bêtifiants ou trop intimes. Prépare-toi pour dimanche, j'ai annoncé ta venue aux parents. Qu'est-ce que tu me conseilles de leur apporter ? Tu m'as dit qu'ils aiment chiner des antiquités. J'ai pensé à un annuaire papier. D'ici peu, ça sera collector. Pas bête. Ajoute-y quelques fleurs fraîches, ça équilibrera le cadeau. Ça serait idiot de les mettre à dos dès le premier jour. Bien vu. On se voit demain ? Oui, j'ai hâte. Ça va être long. Je vais rêver de toi. À demain. À demain. C'est toi qui raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi.
La calligraphie fut inventée au Japon au IVe siècle d'après les empreintes de pattes d'oiseaux sur le sable d'une plage. Au XXIe siècle, le monde travaille à effacer les oiseaux et l'écriture manuscrite. Mais partout et toujours sur Terre, des petites mains ailées de 3, 4, 5 ans barbouillent du papier, cassent des craies, peignent sur les murs et les vêtements, en mettent partout, écrivent. Le Muguet, Christian Bobin.
Vous avez entendu des nouvelles de Roselyne Tinet, de Marie-Martine Briand, de Elisabeth de Villedon et de Elisabeth Lemerdy. Ces textes ont été lus par Anaïque Frappard, Bernard Zeiler et Elisabeth de Villedon. Bonsoir à tous, à la prochaine. Cette émission, Le Chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.